impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous continuons notre voyage en Sibérie par la lecture des extraits de ce journal de bord tenu par Sylvain Tesson, intitulé « Dans les forêts de Sibérie ». Les deux premiers mois de solitude hivernale ont passé et l'ermite du lac Baïkal, Sylvain Tesson, marque dans son journal cet écoulement du temps par les intitulés suivants. Avril, le lac. Mai, les bêtes. Juin, les pleurs. Juillet, la paix. Ce livre publié en septembre 2011 a reçu le prix Médicis dans la catégorie essai. Effectivement, Sylvain Tesson s'essaie à la sagesse et fait sienne cette citation de Monterland placée en exergue de son ouvrage. La liberté existe toujours. Il suffit d'en payer le prix.
Avril, le lac. 2 avril. Il a fait moins 20 degrés cette nuit, et j'ai enfin cloué des bandes de feutre sous la porte. Au matin, je bois le thé en regardant les messages du givre sur les carreaux. Qui saurait les déchiffrer? Y a-t-il une écriture cachée dans ces choses? Ce soir, je réussis enfin mes crêpes. Des crêpes comme des enfants. Ne jamais les laisser sans surveillance. J'invente le blini fourré à l'omble tacheté. D'abord, pêcher un omble, couper du bois, faire du feu. Cuire le poisson dans les braises avec de l'aneth. Confectionner des blinis avec quelques gouttes de bière si vous manquez de levure. Dépiauter la chair du poisson sur le dos d'un blini. En mettre un autre par-dessus. Faire passer le tout avec 25 centilitres de vodka à température ambiante. Je dîne, les yeux par la fenêtre. Il y a des gens dont les repas proviennent exclusivement du paysage étendu dans leur champ de vision. C'est une définition de l'Éden. Vivre replié dans un espace que le regard embrasse, qu'une journée de marche permet de circonscrire et que l'esprit se représente. Mes dîners du Baïkal contiennent un faible rayonnement d'énergie grise. L'énergie grise explose quand la valeur calorifique des aliments est inférieure à la dépense énergétique nécessaire à leur production et à leur acheminement. L'orange qu'on offrait jadis à Noël était un trésor. On la savait gonflée d'énergie grise et l'on appréciait le prix du voyage. Un poisson-chat tiré d'un méandre du Mékong par un pêcheur laotien et grillé sur la rive du fleuve irradie d'une énergie grise nulle. Mes ombles, cuits à quelques mètres du trou de pêche aussi. Mais le steak argentin, provenant d'un bétail nourri au soja dans les estancias de la Pampa et transporté à travers l'Atlantique jusqu'en Europe, est frappé d'infamie. L'énergie grise, c'est l'ombre du karma. Le décompte de nos péchés. Un jour, nous serons sommés de les payer. Liste de quelques repas historiques à faible quantité d'énergie grise à compléter. La manne tombée du ciel aux pieds du peuple juif. Les jeunes vierges offertes au Minotaure par les Athéniens. Le pain et le vin de la Seine. Les poissons des noces de Cana. Les enfants de Médée, Le sang pompé en pleine steppe par le cavalier tatar qui colle ses lèvres à l'incision pratiquée sur l'encolure de son cheval. Les déjeuners de Saint-Pacôme en sont déserts à base de lézards séchés. Les missionnaires chrétiens arrivés sur les îles malayo-polynésiennes en bateau à voile et accommodés au courbouillon par des sauvages. Malgré les apparences, les ours tués dans le zoo de Kiev par des Ukrainiens affamés après la chute de l'Union soviétique contenaient une énergie grise importante. Il avait fallu acheminer les bêtes de Sibérie et les élever dans les conditions de la captivité. Il y a 40 ans, les survivants d'un accident aérien dans les Andes survécurent avec la chair de leurs semblables. Ils se gobergèrent d'un repas à haute teneur en énergie grise. La viande était venue par avion. Sur le linteau de la cheminée de Diane de Poitiers, cette expression est gravée. Nul plat venu d'ailleurs. Se nourrir du produit de son voisinage était alors un honneur. Avoir du sang picard, lorrain ou tourangeau signifiait cela. Irriguer ses veines avec les fruits de son terroir. Le sang des pêcheurs du Baïkal s'enrichit des nutriments du lac et de la forêt. L'humus, l'eau et l'air sibérien pulsent en leurs artères. Le droit du sol devrait être considéré à la lumière de ces constatations biologiques. Le sang puisant à la substance du sol, l'identité d'un être s'enracinerait dans l'espace géographique qui le nourrit. Si l'on avale des boîtes de conserve importées, on est citoyen du monde.
15 avril. Il me faut 2 heures et demie pour sortir de la forêt. Je remonte le cours de la deuxième vallée au sud de ma cabane pour y chercher un bivouac. Malgré les raquettes, j'enfonce à mi-cuisse. Chaque pas, une haute lutte. J'arrive à la lisière supérieure de la forêt à 7 heures du soir, trempée. Je choisis un replat à 1200 mètres d'altitude au-dessus d'un pierrier. À 100 mètres en contrebas, une trace de glouton court à flanc. L'animal n'hiberne pas. Il fait un froid de gueux. Des pins nains dégagés par le vent rampent sur les blocs couleur rouille. La bouriatie est un filament rouge à l'orient. Je coupe des brassées de pins pour me faire un matelas et lance un feu dans l'ombre. Je monte la tente, y jette le matelas et mon duvet. Je fais chauffer des pattes sur le feu, puis me vautre sur mon lit de ramure, plus moelleux qu'un sofa du Bas-Empire. Mon feu est construit entre 2 blocs de 1,50 m, dont les parois renvoient la chaleur. Il fait -25 ou -30 degrés, mais je suis au chaud dans ma conque de rocher réchauffée par les flammes. Et je fixe ce point très précis où les étincelles du brasier, propulsées vers le ciel, pâlissent et brillent d'un dernier éclat avant de se confondre aux étoiles. J'ai du mal à me convaincre de gagner ma tente. Je suis comme un gosse qui ne veut pas couper la télévision. De mon duvet, j'entends crépiter le bois. Rien ne vaut la solitude. Pour être parfaitement heureux, il me manque quelqu'un à qui l'expliquer.
Bête. 12 mai. Une journée au cèdre du Nord. Regardez le ciel à 6 heures du matin. Allumer le feu en lui murmurant des mots gentils et sortir puiser de l'eau. Notez que le thermomètre indique -2 degrés. Manger un blini arrosé de thé brûlant. Regardez le lac à travers la vapeur du thé. Le regarder encore mais à travers la fumée du premier cigario. Finir la promesse de l'aube en mangeant les baies d'Iréna. Rendre visite aux 4 fourmilières qui encadrent ma cabane à 300 mètres les unes des autres et surveiller les travaux de consolidation. Chercher à la jumelle la tache noire des phoques au soleil. Dessiner la lampe à huile en essayant de rendre la transparence du verre. réparer le fourreau du couteau abîmé dans la marche d'avant-hier. Couper du bois. Nourrir les chiens avec la pâtée de silure. Faire cuire la cacha du soir. Attraper en 40 minutes au trou de pêche le plus proche les deux poissons qui l'accompagneront. Penser à ce qu'aurait pu être cette journée si mon être chéri, la seule personne sur cette terre qui me manque même quand elle est près de moi, avoir daigné être là. Ne pas penser aux raisons qui l'ont poussé à ne pas venir. Se saouler doucement à cause de l'impossibilité de ne pas y penser. Se réjouir de la tombée de la nuit qui va cacher le bois de ma gueule.
24 mai. Cette nuit, j'ai rêvé d'une attaque d'ours. Ils sautaient sur le toit de la cabane, ils étaient aussi agiles que des chats et élancés comme des lévriers afghans. Passablement épouvantables. Je soupçonne l'odeur d'algues nouvellement répandues dans l'atmosphère d'influencer mes rêves et de les tirer dans les parages gothiques. Une escadrille de fuligules morillons se pose sur un pan d'eau ouvert entre trois immenses festons de glace. Ils décollent en formation parfaite dans la direction de la Mongolie. Un couple de harles se plaît dans ma baie. Je passe des heures, l'œil aux jumelles, à détailler leurs crêtes de punk. Des harlequins plongeurs atterrissent plein gaz dans un canal étroit. Les canards sont sapés comme pour le bal, et lorsqu'ils s'envolent, ils ont l'air sacrément de savoir où ils vont. À 8 heures, tous les soirs, les rayons du soleil parviennent à se glisser dans une échancrure de crête au sud, et à tirer une longue coulée de lumière rousse sur le velours des épineux. Savoir si Dieu ou le hasard est responsable de cette beauté m'importe peu. Faut-il connaître la cause pour jouir de l'effet? Le soir, je dîne dehors, devant un feu de bois construit sur la plage, puis je reste à regarder les flammes avec les chiens, les mains au chaud dans leur fourrure jusqu'à ce que la lune, par-dessus la montagne, donne le signal d'aller se coucher.
Juin, les pleurs. 5 juin. Je rame vers le nord en cette fin d'après-midi, deux cannes à pêche accrochées au plat-bord. Les baies étalent des plages de galets roses. La transparence de l'eau laisse entrevoir les rochers où le soleil plaque des clartés de lagons. Passe un radeau de glace où 8 mouettes prennent le soleil. Du large, je découvre la montagne transformée. La ligne vert tendre des mélèzes soutient la bande vert de bronze des cèdres, coiffée par la frise vert wagon des pins nains. Des névés survivants les ponctuent de virgules. Les montagnes jouent à front renversé. Les reflets sont plus beaux que la réalité. L'eau féconde l'image de sa profondeur, de son mystère. La vibration à la surface situe la vision aux lisières du rêve. Devant la proue, les canards décollent à grand-peine. À la pagaie, on peut s'approcher des bêtes sans les effrayer. J'échoue sur le sable de la plage bordée par un torrent dont les bouillons se mêlent au lac. Un orage me chasse sous un cèdre. Les chiens me rejoignent. Le lac est une flanelle anthracite, piquetée par un déluge d'aiguilles. En 5 minutes, le ciel s'ouvre. Sous l'arc-en-ciel, en grenouillère, je pêche dans le courant. Des canards me frôlent. Des faisceaux de soleil décorent la forêt de taches blondes. Il y a dans cette distribution des rôles tenus par la montagne, la rive, l'eau et les bêtes, une tenue parfaite. Comme s'ils étaient appointés, les poissons mordent subitement. En 20 minutes, je prends 6 ombles. Alors que la lumière s'épuise de faire des trous dans les nuages, je me couche sur la plage devant un feu de bois. Les chiens contre le flanc. Le kayak remonté de moitié sur la rive et, écoutant la musique de la houle, je regarde griller mes poissons embrochés sur des pics de bois vert en pensant que la vie ne devrait être que cela. L'hommage rendu par l'adulte à ses rêves d'enfant. Je lutte contre la tentation de prendre une photo. Le soleil, comme d'habitude, choisit la bourriatille pour se coucher.
juin. Tout s'écroule. Sur le téléphone satellite que je réserve aux urgences et n'est pas utilisé encore, 5 lignes s'affichent plus douloureuses qu'un coup de fer rouge. La femme que j'aime me signifie mon congé. Elle ne veut plus pour homme d'un fétu dans les courants. J'ai péché par mes fuites, mes dérobades et cette cabane. Lorsqu'elle m'est revenue, il y a 3 ans, après des années d'absence, je partais pour un reportage sur les bords du Baïkal. Elle me quitte, et je suis devant les mêmes rives. Pendant 3 heures, j'erre sur la plage. J'ai laissé s'envoler le bonheur. Vivre ne devrait consister qu'en ceci, prononcer sans cesse des actions de grâce pour remercier le destin du moindre bienfait. Être heureux, c'est savoir qu'on l'est. Il est 5 heures du soir, la douleur afflue par vagues. Par moments, elle me donne quelques répits. J'arrive à nourrir les chiens, à pêcher même. Mais le mal revient toujours, doué d'une propre vie. Plomb fondu dans les nervures de l'être. Je rêve d'une petite maison de banlieue, avec chiens, femmes et enfants protégés par une haie de sapins. Dans toute leur étroitesse, les bourgeois ont tout de même compris cette chose essentielle. Il faut se donner la possibilité d'un bonheur minimum. Je suis condamné à demeurer dans ce huis clos, plein de canards stupides, face à ma peine. Je dois concentrer mes forces à atteindre la prochaine heure. Je me plonge dans un livre, dès que je lâche la lecture, les 5 lignes du message hurlent dans mon crâne. Je ferme les livres et pleure dans le poil de mes chiens. Je ne savais pas que la fourrure des bêtes absorbait si bien les larmes. Sur la peau des humains, elle glisse. Les chiens, d'habitude, sautent partout à cette heure. Ce soir, ils se tiennent tranquilles, sous mon misérable petit déluge, penchant un peu la tête. Je n'ai qu'un pistolet à fusée de phosphore pour me faire sauter la cervelle. Résultat, même pas garanti. Un phoque apparaît au-dessus de la ligne d'eau, juste devant la plage. Je me dis que c'est elle, venue me sourire. Il faut que j'obtienne de lui parler une dernière fois. Nous sommes toujours en retard de vivre. Le temps n'offre pas de deuxième chance. La vie se joue à un coup. Et moi qui me suis enfui dans la forêt, la laissant derrière moi, je lis à m'épuiser, car si mes yeux se détournent, la peine m'étouffe et force à me lever. La nuit, je crois entendre des bateaux. Ce sont mes yeux qui bourdonnent.
19 juin. Le bonheur dure 1 seconde. Lorsque l'on se réveille à l'aube, il y a un moment agréable, juste avant que la conscience se souvienne et que le cœur se serre. Depuis l'Apocalypse du 16 juin, j'ai lu 2 comédies de Shakespeare, le manuel d'Épictète et les pensées de Marc Aurèle, les aventuriers de Giovanni et un polar de Chaise, Eva. L'auteur décrit un sale mec dont le caractère assèche tout et crée le désert autour de lui. Ce type, c'est moi, ma main guidée par des mouvements mystérieux après la désintégration de mon cœur, est allée chercher dans le rayonnage les livres qu'il me fallait lire. Marc Aurèle m'a aidé, Giovanni m'a montré ce que j'aurais dû être, Chaise me figure ce que je suis. Les livres sont plus secourables que la psychanalyse. Ils disent tout mieux que la vie. Dans une cabane mêlée à la solitude, ils forment un cocktail lithique parfait. Le rabot de la vodka sculpte notre gueule de bois. À midi, Miolis et Devo émergent. Ils ont dormi sur le plancher de la cabane. Pour distiller le poison, nous partons à pied vers la Lednaya et déjeunons sur les replats herbeux qui dominent la falaise de la rive droite. Les chiens courent après les canards, toute cette joie. 2 chevalets plantés sur une plage devant des peintres de blanc vêtus, composant leurs tableaux à petites touches précautionneuses, des chiens couchés à leurs pieds, dans l'air mauve d'une soirée sibérienne, est un spectacle d'une douceur très classique. Je ne me lasse pas de regarder Miolis et Devo. Ils voyagent depuis un mois en Sibérie et peignent sur le motif, comme ils disent, dans la plus pure tradition des peintres ambulants de la Sainte Russie. Ils mettent l'espace à plat à l'aide de lumière et d'un peu de temps. J'écris ces lignes pendant qu'ils achèvent leur tableau. La cabane prend un air d'atelier d'artiste. Une villa Médicis pour Moujik.
Juillet, la paix. 10 juillet. Le ciel est plus prodigue de ces bêtes que la forêt. Aucun ours ne vient au rendez-vous de la graisse puante. Nombreuses sont les délégations de Bernache, de Arles, de Fuligule et d'Eders. De kayakistes allemands arrivent du nord au soir tombant. Ils plantent leur campement sur les plages du Cap, à 500 mètres de la cabane, et viennent recharger leur équipement électronique sur mes batteries solaires. Il faut regarder leurs photos, leurs films, échanger des adresses Internet. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, juste après la poignée de main et un regard furtif, on note les noms de sites et de blogs. La séance devant les écrans a remplacé la conversation. Après la rencontre, on ne conservera pas le souvenir des visages ou des timbres de voix, mais on aura des cartes avec des numéros. La société humaine a réussi son rêve, se frotter les antennes à l'image des fourmis. Un jour, on se contentera de se renifler.
Juillet. La vie en cabane est un papier de verre. Elle décape l'âme, met l'être à nu, envisage l'esprit et embroussaille le corps. Mais elle déploie au fond du cœur des papilles aussi sensibles que les spores. L'ermite gagne en douceur ce qu'il perd en civilité. Peut-être notre ancêtre était-il plus gracieux devant le plaisir, plus conscient de son bonheur dans la proportion où il était moins délicat dans la souffrance, écrit Bachelard dans la psychanalyse du feu. S'il veut garantir sa santé mentale, un anachorète jeté sur un rivage doit habiter l'instant. Qu'il commence à échafauder des plans, il versera dans la folie. Le présent, camisole de protection contre les sirènes de l'avenir. Les nuages du soir mettent des bonnets de coton aux montagnes ensommeillées. Des fleurs d'églantier bordent le pied des arbres, de la lisière du bois. Elles tournent leur corolle vers leur dieu, le soleil. Je pense à la description du jardin de la rue Plumet dans Les Misérables. Jean Valjean a laissé la friche pousser et Hugo file une profession de foi panthéiste. Tout travaille à tout. Il y a entre les êtres et les choses des relations de prodiges. Aucun penseur n'oserait dire que le parfum des aubépines est inutile aux constellations. Prolonger la question hugolienne. Qui prétendrait que le ressac n'est pour rien dans les rêves du fond, que le vent n'éprouve rien à se heurter au mur, que l'aube est insensible aux trilles des mésanges.
26 juillet. Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin, j'ai passé les premiers à peine. Sergueï vient me chercher après-demain. Nous irons déposer les chiens à Ilochine. Ils y resteront en attendant de trouver maître dans une autre cabane de la réserve. Je suis venu ici sans savoir si j'aurais la force de rester. Je repars en sachant que je reviendrai. J'ai découvert qu'habiter le silence était une jouvence. J'ai appris deux ou trois choses que bien des gens savent sans recourir à l'enfermement. La virginité du temps est un trésor. Le défilé des heures est plus trépidant que l'abattage des kilomètres. L'œil ne se lasse jamais d'un spectacle de splendeur. Plus on connaît des choses, plus elles deviennent belles. J'ai rencontré deux chiens, je les ai nourris, un jour ils m'ont sauvé. J'ai parlé aux cèdres, demandé pardon aux ombles et pensé aux miens. J'ai été libre car sans l'autre la liberté ne connaît plus de limite. J'ai contemplé le poème des montagnes et bu du thé pendant que le lac rosissait. J'ai tué le désir de l'avenir. J'ai respiré l'haleine de la forêt, suivi l'arc de la lune, j'ai peiné dans la neige et oublié la peine au sommet des montagnes. J'ai admiré la vieillesse des arbres apprivoisés, des mésanges, saisi la vanité de tout ce qui n'est pas révérence à la beauté. J'ai jeté un regard sur l'autre rive, j'ai connu des semaines de neige silencieuse. J'ai aimé avoir chaud dans ma hutte pendant que la tempête déchaînait sa rage. J'ai salué le retour du soleil et des canards sauvages. J'ai arraché la chair des poissons fumés et senti la graisse des œufs d'omble me rafraîchir la gorge. Une femme m'a dit adieu, mais des papillons se sont posés sur moi. J'ai vécu les plus belles heures de ma vie jusqu'à la réception d'un message et les plus tristes ensuite. J'ai arrosé la terre de sanglots, je me suis demandé si on pouvait obtenir la nationalité russe, non par le sang mais par les larmes versées. Je me suis mouché dans les mousses. J'ai vidé des litres de poison à 40 degrés et j'ai aimé pisser devant la bouriatie. J'ai appris à m'asseoir devant une fenêtre. Je me suis fondu à mon royaume. J'ai senti l'odeur du lichen, mangé l'ail sauvage et croisé des ours. Ma barbe a poussé, le temps l'a dévidée, j'ai quitté le caveau des villes et vécu 6 mois dans l'église de Taïga. 6 mois comme une vie. Il est bon de savoir que dans une forêt du monde, là-bas, il est une cabane où quelque chose est possible, située pas trop loin du bonheur de vivre.
Cette lecture s'achève, mais le voyage n'est pas terminé. Il vous suffit d'ouvrir le livre de Sylvain Tesson, dont nous vous avons lu ces quelques extraits, pour le poursuivre. La musique qui accompagnait ce voyage était celle de Charlie Haden, Silence. Ce sont
Dominique,
Valérie,
Anne,
Ouria, qui ont conçu cette émission, et l'enregistrement est l'œuvre de Vincent et Claude Michel.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez